Nous allons pouvoir commencer cette table ronde intitulée « D'où viennent-elles, créatures fantastiques et magiques ?» avec quatre auteurs qui, chacun à leur manière, nous ont beaucoup fait rêver à travers leur vie. Alors, Pierre Dubois, je ne sais pas s'il est besoin même de présenter Pierre, que tout le monde connaît, vient de sortir une énorme encyclopédie. Donc, sur l'épouvantable encyclopédie des fantômes, donc créatures surnaturelles, s'il en est. Nous avons le plaisir d'accueillir Christine Cachor, que l'on connaît en France pour sa trilogie Wrestling, Rouge et Peter Blue. D'autres créatures tout à fait fantastiques. Mani Pavlenko, qui vient de sortir la fille sortilège, et dans la collection Pandore au Pré-au-Clair. Mais j'ai oublié de préciser que l'équipement des fantômes, c'était chez Glénat, et Christine Cachor est publiée par les éditions Orbite. Et nous avons tout au bout là-bas Hervé Jubert, qui vient de sortir au début de l'année Magie Secrète, chez Pandore aussi, et qui a d'ailleurs eu le Grand Prix de l'Imaginaire cette année pour ce roman. Voilà.
Ouais.
Et donc pour rentrer tout de suite dans le vif du sujet, chacun ayant des créatures extrêmement différentes les unes des autres. On va peut-être commencer d'abord avec notre amie américaine ici présente, Christine Cachor, qui dans son univers des Wrestlings, donc ces créatures fantastiques, ces humains aux yeux gris que l'on reconnaît, ils ont chacun un nom qui est parfois d'ailleurs inutile, et on les reconnaît parce qu'ils ont des yeux verrons. Donc peut-être pourrait-elle commencer par cela, car là on est encore dans l'humain un peu amélioré, dirais-je.
What is there any particular thing you'd like me to discuss about them, or just
well? I think that.
Sorry.
Vous pouvez commencer. Vous pouvez peut-être pré-expliquer. Ce que sont les wrestlings, parce que ce sont des humains, mais qui ont un don et qui n'est pas forcément magique.
Yeah, okay. So a wrestling is a regular human, but shortly after they're born, the eye color changes so that they have two eyes that are different colors from each other, and that's when you know, our child is a Graceling. And Gracelings are shunned by society, so generally you are not happy when this happens to your child. And what it means is that at some point your child is going to develop an extreme gift or extreme power, which is no different from what regular people can do, but just take it to an extreme. So you can't time travel or do anything really wild with a grace, but you might have, my main character in Graceling has the grace of killing. She is just an exceptional fighter. You might have a grace of making wine or of handling horses or some are, some people are mind readers, some people have an ability to predict the future, which again, there are people in the world, in the real world, who are just extremely perceptive, so I just took it a step further to mind readers or people who just for some reason have an instinct about what's going to happen. I took that a step further. It was important to me that graces all seem like actual human characteristics just writ large.
Donc effectivement, les graces
listening, ce sont des êtres humains normaux, sauf que après leur naissance, au bout d'un moment, leurs yeux changent et deviennent verrous. C'est à ce moment-là qu'on se rend compte que notre enfant est gray listening. Alors, les parents ne sont pas très contents quand ça arrive, parce qu'en général, les gray listening sont un peu rejetés de la société. Ça veut dire que leur enfant va développer à l'extrême un don ou un pouvoir. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas différents des gens normaux. C'est des capacités qui existent chez tout le monde, mais poussées à l'extrême. Par exemple, ils ne peuvent pas voyager dans le temps. Par contre, y a un des personnages qui est capable de tuer, mais de tuer très efficacement. D'autres vont être capables de s'occuper de chevaux de façon exceptionnelle. D'autres vont pouvoir lire dans l'esprit des autres ou prédire l'avenir. Alors c'est vrai que dans la vraie vie, il y a des gens qui sont très perceptifs ou qui ont un instinct de ce qui va se produire. Ben là, c'est juste qu'on a poussé ça à l'extrême. Mais donc ce sont des caractéristiques humaines qu'on pousse à l'extrême.
Donc chez vous, si c'est un côté, ça se rapproche de la magie et ça n'en est pas.
Right. I'm kind of trying to find. I mean, it is kind of magic, but I'm trying to find that line to just kind of make it very human. I don't write about magic totems or, you know, special rocks or a ring or any specific thing like that that creates power. I don't write about casting spells or specific, you know, magic type things. I love reading books like that, but when I write, my books are very character-driven, so I really like to give a character just some horrible, impossible thing to deal with and see how they deal with it, and many of these graces are like that. You have a gift that you wish you didn't have.
Alors, en fait, j'essaie de trouver, enfin, c'est un peu de la magie, mais j'essaie de trouver justement l'aspect humain. C'est-à-dire que je ne vais pas écrire sur des totems magiques ou des rochers qui ont un pouvoir magique, de gens qui vont jeter des sorts. J'aime bien lire ce genre de choses, mais quand j'écris, moi, ce qui m'intéresse, ce sont les personnages. Et ce que j'aime, c'est justement confronter ces personnages à quelque chose d'impossible. Et en général, les Gracing ont un don qu'ils préféraient ne pas avoir. Donc c'est ça qui m'intéresse.
Alors, c'est très différent de l'approche de celle que vous avez, Marie, par la petite sortilège, où là, les humains qui habitent dans cette cité, au milieu des déserts, les membres de ces six clans ont chacun une magie particulière qu'ils ont développée. Et là, c'est vraiment une magie extérieure.
Alors, c'est une magie extérieure, puisque c'est quasiment une magie comme une énergie, en fait, dont ils s'alimentent. Ils ne savent pas exactement d'où ça vient, mais ils ont mis au point des méthodes. Là, il y a des sorts, là, il y a une initiation, il y a un rapport avec la magie très fort qui leur permet de vivre, c'est-à-dire que c'est la magie permet de faire pousser des arbres, la magie permet d'extraire de l'eau dans le désert, c'est très de forger des épées qui sont très particulières, etc. La magie, c'est voilà, c'est notre électricité, peut-être notre énergie. Ils ne savent pas d'où ça vient, ils la puisent quelque part. Et ils s'en servent pour ériger une magnifique cité qui est posée au milieu du désert.
On ne sait pas très bien d'ailleurs comment même ils l'utilisent. Quel est le mécanisme, en quelque sorte, interne?
Non, mais eux ne le savent pas non plus. C'est un leg, hein, quelque part, d'incantation. Et ils ont besoin d'être nombreux, d'avoir pas des rituels parce que ça fait un petit peu magique, mais il y a vraiment, voilà, c'est quelque chose, on fait ça en groupe et on extrait de manière un peu miraculeuse quelque part cette magie. Mais c'est l'histoire, c'est comme un mythe qu'on se raconte, que les parents racontent aux enfants et qu'on utilise ensuite. Ils connaissent pas vraiment les arcanes de cette magie là, voilà, ça reste très mystérieux chez eux.
Alors que chez Werber, là, non seulement les humains utilisent la magie, mais ils sont en contact avec, depuis toujours, avec des créatures magiques, ou c'est un univers encore pas différent, ou de, une sorte de terre parallèle à la nôtre, où là, on, les hommes ont toujours vécu en plus ou moins bonne intelligence avec toutes ces créatures qui chez nous sont du folklore.
Alors, l'univers de la magie secrète, c'est une transposition de Paris au Grand Empire. Je suis amoureux de Paris du 19e siècle, et quand on m'a dit Banco pour faire un roman fantastique, je me suis jeté dedans par un raccourci, et j'ai ressorti 10 ans de notes sur le folklore parisien, en partant toujours de ce qui avait existé, pour faire ma faune féerique parisienne. Paris s'appelle Sequana d'Andiquin, et j'ai repris des créatures auxquelles les gens croyaient, le petit homme rouge des Tuileries que tu connais, Pierre, l'homme vert des catacombes, les gargouilles en pagaille, les charcutiers cannibales, etc. Une fois que j'ai fait mon vademécum féerique quartier par quartier, et c'est 48 quartiers de Paris, d'abord j'ai fait l'univers féerique, et après je voulais faire un truc sur la faune en péril, en fait. Parce que je partais du principe que, effectivement, les humains et les fées vivaient un peu comme toi dans ton univers, plus ou moins bien ensemble. Dans le monde de Sequana, ça se passe pas bien. Mon Napoléon III a décidé d'éradiquer, comme il l'a fait dans la réalité, en traçant des avenues rectilignes, etc. Et ben, la féerie va disparaître. Et certains de mon héros se bat pour créer une sorte d'asile, une arche, qui va sauver ce qu'il peut l'être. Donc il y a un argument folklorique de base, c'est d'essayer de refaire revivre cet univers-là que j'adore. Il y a faire de l'écologie féerique, et puis faire un roman d'aventure avec.
Oui, parce que là, la source de pouvoir, ce sont des, en quelque sorte des lieux de puissance.
Bah, oui, mais dans Paris, ils sont partout, en fait. Vous allez sous l'ancienne Sorbonne, il y avait un ancien temple à Bacchus, sous l'école pratique de hautes études. L'île de la Cité, on n'en parle même pas. Il y avait la Tour des Limbes, près de l'ancien hôtel Dieu, où on emmurait des cadavres, des poupons mort-nés. Les gens, paraît-il, les entendaient. À côté, il y avait les Cagnards, où il y avait les lavandières de la nuit. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que le Paris d'aujourd'hui, on a encore des traces de ça. Il suffit de lever le nez, c'est une ville qui est encore très très 19e, et voilà, n'importe où, Palais Royal, Bibliothèque Nationale, où que ce soit, la magie est encore présente. Donc j'ai bien aimé travailler sur ce bouquin-là et sur la suite, parce qu'il suffit aujourd'hui de se promener de visu vivant dans les rues pour voir la magie encore présente.
Quant à vous, Pierre, vous êtes intéressé toujours à tout ce qui est créatures féeriques et folkloriques de manière générale, et là dans votre dernier livre vous intéressez à une autre catégorie de créatures surnaturelles, celle que en fait tout le monde connaît, les fantômes. Donc pourquoi ce changement soudain?
Merci. Il n'y a pas réellement de changement, en fait, c'est à dire que j'en parlais tout à l'heure, juste avant, là, c'est que Bachelard disait qu'un fantôme, c'était une fée inachevée. Il, évidemment, lui philosophait, l'image est très jolie, lui, évidemment, écrivait sur toute la philosophie des lieux, les esprits des lieux, les élémentaires, les élémentaux, l'élément du feu, de l'air... mais en même temps, c'est vrai que lorsqu'on voit la rivière, on pense tout de suite à Ophélie. D'ailleurs, dans la nuit du chasseur, on le voit très bien. Lorsqu'on voit le cadavre de la maman qui a été tuée, on la voit sous l'eau, comme ça, avec ses cheveux qui se mêlent aux algues, et on ne peut penser qu'à une chose. Et là, donc, les fantômes ont été très, très souvent... comment dirais-je, allié, il y a eu alliance avec les morts. Par exemple, en Irlande, lorsqu'on descendait dans une colline creuse où dormaient les fées, où étaient les fées, hein, là où il y avait des dolmens, des cairns, des menhirs, c'était là où les anciens avaient été enterrés. Les anciens dieux, les anciens rois étaient là, donc leurs âmes étaient là. Et en fait, lorsqu'on traversait lorsqu'on rentrait dans la colline, on trouvait ce royaume, cet autre royaume où fées et les morts étaient mélangés. Il y avait vraiment, d'ailleurs, la Dame Blanche, On n'a jamais trop su si c'était une banshee, hein, le ou si c'est une druidesse, ou si c'est une fée, ou si c'est un fantôme. Il y a toujours cette ambiguïté. Donc, si tu veux, le fait, c'est que j'ai écrit les fées lorsque j'étais un gamin, non, les lutins quand j'étais un gamin. Après, je me suis intéressé aux fées, évidemment. Après, il y a eu le retirement un petit peu, voyons, dans notre société. Tu vas vers les elfes en disant, bon, ici, c'est pas la peine, je me retire dans les collines. Et puis après, quand tu arrives tout doucement, comme moi, si tu veux, j'ai un certain truc, tu dis que je vais aller voir, tu connais des fantômes, pour faire des copains déjà là-bas. Mais justement, j'ai une porte de sortie, c'est que j'envisage les revenants. Donc, c'était tout à fait naturel. Je pense que en partant de mes rêveries d'enfance et quand j'ai eu conscience de cet autre petit monde, là encore pour revenir à Papa Bachelard dit les petits êtres fuyants et cachés oublient de fuir lorsqu'on les appelle par leur vrai nom. Donc, enfant, lorsque j'étais dans la buanderie, j'aime bien le mot buanderie, comme ça, dans l'arrière-cuisine, déjà, t'as la maman qui fait la lessive, t'as des effluves comme ça, t'as le truc. Plus, je suis quand même dans les années 50 et tout, là, vous n'étiez pas, même pas des frissons lubriques dans les chiffres. Et là, il y avait la conscience, on faisait l'économie d'énergie, déjà, on le faisait vraiment. C'est-à-dire qu'on n'allumait pas la lumière tout de suite. Il y avait le feu qui ronflait et tu enlevais le dessus du feu. Et c'est ça qui faisait la lumière, tu vois. Donc tu avais cette petite cuisine, cette arrière-cuisine, cette buanderie, où tout se faisait, c'était presque une première cabane. C'était vraiment une caverne. Et là, tu es enfant là-dedans, tu vois. Et tout prend une dimension magique. Et lorsqu'on retirait cette lumière du feu, c'était la lumière du feu, quoi, et qui projetait au plafond cette lumière. Et au fur et à mesure où le vent soufflait, respirait sur les braises, quoi, tu avais des images qui changeaient. Et quand tu es enfant tout seul dans ton coin, c'est l'enfant des sortilèges de Colette et Ravel, quoi, il y a tout un univers qui se crée. C'est là où tu sens la perception. C'est vrai que les fantômes, la première chose qu'ils font pour se manifester, c'est en général les sons, les bruits. Hein, même les spirites de ça tapent trois coups. Et là, tout se faisait. Donc il y a eu toute une petite mythologie qui s'est faite sur moi. Ce qui fait que tout à fait normal que j'aille vers les fées, après les elfes et tout, pour arriver au fantôme qui est vraiment t'as un être cher qui meurt, t'as envie de le retrouver. Ben, voilà, tu vois. C'est une magie, mais qui est en nous, comme on parlait tout à l'heure des pouvoirs qu'on a en nous, et puis qu'on nous a coupés au fur et à mesure. Dès que tu mets les pieds à l'école, c'est terminé. Tout ce que tu pourrais développer et tout, même tu parles aussi de Paris, je pense à Jean Rey qui disait, lorsque je me promène rue de la Harpe, il y a un petit lutin qui vient sur mon épaule. Et il en était absolument convaincu de ce lutin qui arrivait sur son épaule. La magie est dans les murs, et là, le tout, c'est de les appeler quelque part, tu vois. Et là, quand tu les connais par leur vrai nom, quand tu les reconnais, ils viennent automatiquement, et la magie est là, cette pensée magique, on peut la ressusciter à chaque instant, quoi, tu vois. Là. Tiens.
Ce qu'il y a de très intéressant, c'est que là, déjà, chez nos auteurs ici présents, Pierre Dubois qui vient d'expliquer avec passion son itinéraire, expliquant le sujet de son dernier, et puis Hervé Jumère qui a mentionné brièvement tout à l'heure sa passion pour le Paris du Second Empire. Alors, ce que j'aimerais savoir, c'est avec nos deux autres auteurs, d'une part, Christine, dont c'est la première trilogie, qu'est-ce qui l'a amené à choisir cet environnement et ce genre de personnage?
You know, what happened is what happens with all my books, which is that some people show up in my brain and they start having fights with each other, they start arguing. And I know that they're imaginary, and I'm not, they don't tell me to do things or anything like that. But I kind of sit and listen and daydream to their
Why are they arguing? And with my first, I didn't mean to write a trilogy. I thought I was just going to write one fantasy book. What happened is that the characters that came to me came with their magical abilities intact. So I knew from the beginning, just listening to them argue, well, one of these people has a bizarrely extreme ability to fight, and the other, well, I don't actually want to say what the other has because of this story, but it was clear to me, well, this is going to be a fantasy. And so it was kind of like the characters told me what kind of book they needed me to write them into. And that's been the case with every one. When I was partway through writing that one, I started to get the idea for the next one, and then thought, that's going to be it, no more fantasy. And then partway through that one, I got the idea for the next one. And the third one took me 4 years, so I really was like, no more fantasy. But now I'm planning another one. So it's the characters. The characters and their power dynamics and struggles with each other is where that's where the passion is for me.
Personnellement, ce qui s'est passé, c'est, et c'est le cas pour tous les livres que j'ai écrits, j'ai des personnages en fait qui apparaissent dans mon cerveau et qui se mettent à se disputer entre eux et à se battre. Alors, je suis pas folle, je sais qu'ils sont imaginaires, ils me disent pas de faire des choses, mais je les écoute, je réfléchis à ce qu'ils font et ce qu'ils disent, et je me demande pourquoi ils se disputent comme ça. Alors, au début, quand j'ai commencé, j'avais pas l'intention d'écrire une trilogie. Des personnages sont venus à moi et ils avaient déjà leur capacité. Donc quand je les ai écoutés, j'ai su tout de suite qu'il y en avait un qui avait la capacité de se battre extrêmement bien. L'autre, je ne vous le dirai pas, c'est un spoiler. mais pour moi, c'était clair que j'allais écrire de la fantaisie. Et donc les personnages, eux, m'ont dit quel genre de livre je devais écrire pour qu'ils puissent se développer. Et ça a été le cas pour tous les livres. Donc j'ai écrit le premier, à la moitié du premier, j'ai commencé à avoir l'idée pour le deuxième, et puis au bout du deuxième, je me suis dit, bon, j'arrête plus de fantaisie, puis j'ai eu l'idée du troisième. Le troisième, il m'a fallu 4 ans pour l'écrire, donc là, je me suis dit, non, vraiment plus de fantaisie. Et puis finalement, bah, je suis en train de prévoir le suivant, et a priori, c'en est encore. Mais donc, c'est effectivement les personnages qui, et leur, la dynamique des pouvoirs entre les personnages qui sont ma passion et qui m'amènent à écrire ce que j'écris.
Et comme nous avons déjà, grâce à vous, exploré 3 royaumes, vous êtes en train de faire le 4e. Comme il y en a 7, on peut espérer qu'il y en aura pas plus.
My editor feels the same way. We'll see. This might be the last one.
Et je précise une affection.
Mon éditeur est assez d'accord avec vous, mais je suis pas convaincue. Je pense que celui-là, c'est le dernier.
Quant à vous, Marie, là, vous avez changé complètement d'univers avec La fille sortilège, parce que vous avez d'abord découvert avec le livre de Saskia, dont on attend impatiemment le troisième volume. Et là, on avait aussi des créatures très fantastiques, mais dans notre monde contemporain et dans notre société d'aujourd'hui. Alors, pourquoi ce changement, cette exploration nouvelle ?
Alors, en fait, moi, ça part vraiment de l'embryon de personnage. Il se trouve que Saskia, c'est une jeune fille qui compte aujourd'hui, de 18 ans, et qui a vraiment un parcours très initiatique. Quand la trilogie commence, elle est assez naïve, et puis voilà, elle est souvent à l'étudier, elle est au etc. Quand j'ai commencé à réfléchir à La fille sortilège, je voulais pas prendre ça à contre-pied, parce que c'est pas un contre-pied, mais me dire, voilà, je veux une héroïne qui soit un peu plus mature et qui soit plus du tout naïve. Et puis, je me suis dit, il y a un truc qui me plairait bien, en fait, c'est que Erin, parce que je savais qu'elle s'appelait Erin, elle déterre les galères, en fait, qu'elle vive comme ça. Et qu'on arrive à comprendre pourquoi, et qu'on s'attache à ce personnage, qu'on puisse vivre des choses avec elle, alors que dès le début, hein, c'est la première page du livre, elle fait un truc pas très reluisant. Et je me suis dit, si c'est vraiment ce qu'elle fait, elle est dans les galères, c'est pas du fantastique, c'est de la fantaisie, donc je vais lui inventer un monde pour qu'elle puisse déterrer des cadavres, et que, bon, voilà, on soit... Et en fait, c'est comme ça que c'est. Voilà, l'origine, c'est ça. Et après, ça se tricote, et je me suis dit, on va faire une ville. Enfin, la fantaisie, il faut quand même créer tout un monde, donc, n'exagérons rien, quand on nous une ville, c'est déjà pas mal. Et puis, j'accepte aussi que l'île, elle était très seule face à une cité très, très forte, très organisée, omnipotente, etc. Et les clans se sont dessinés et la magie qui vit dans cette cité. Voilà. Mais c'est un retour, vraiment.
D'accord. Alors, pour rester toujours dans le thème de cette table ronde, moi, ce qui m'a frappé, c'est que les fantômes me semblent être des créatures très dysfonctionnelles quelque part, mais les trois sociétés que vous développez sont aussi à la base des sociétés qui sont dysfonctionnelles. Chez Christine, dans Peter Blue, c'est une société totalement amnésique qui essaye de se remettre de la tyrannie d'un roi qui avait le don d'effacer le souvenir de ses sujets, d'implanter des faux souvenirs à la place. Donc on a affaire à une société complètement paranoïaque qui ne sait absolument plus qui a fait quoi et pourquoi. Dans la cité d'Eline, c'est la même chose, c'est une société qui est dysfonctionnelle, qui s'aperçoit que petit à petit ce qu'il a fait vivre ne marche plus, et on ne comprend pas pourquoi. Quant à la séquana sous le règne d'Obéron, là aussi, c'est un souverain paranoïaque qui essaye de détruire ces créatures dont il estime que la puissance est trop forte. Donc, est-ce que d'avoir des créatures fantastiques ou magiques entraîne automatiquement un dysfonctionnement et nous sommes bien nous dans notre monde sans enchantement?
Pour ma part, j'avais envie d'un monde bancal et politiquement correct, parce que c'est un reflet de ce qu'on vit aujourd'hui. Quoi. Il suffit d'aller jouer son poste pour regarder, on se pose des questions sur tout. Quoi. C'est essayer de faire un reflet historico-fantastique comme ça sur la situation internationale, sur la situation, la crise partout, etc. Et puis, j'aime bien aussi travailler sur les microcosmes, des îles fermées où il y a un problème. Quoi. Sur une base orbitale, ou une créature type alien qui s'installe, ou un endroit fermé où les choses se basculent et les gens n'ont pas d'autre choix que d'affronter, c'est assez intéressant.
Moi, je pense que la fantaisie, de toute façon, à la base, c'est une métaphore de notre société. Donc, en l'occurrence, dans la vie sortilège, la magie, c'est évidemment un peu une marquette sur la tête, mais c'est le pétrole, c'est-à-dire la ressource qui disparaît et qui. Laisse le monde désemparé parce qu'il n'a pas prévu un désastre. Enfin, c'est un petit peu cette idée-là, en fait. Donc, c'est le vecteur de la destruction.
Similarly to what others have said, I feel like I'm telling true stories. You know, I do research into real horrible leaders in the world and how they manage to get an enormous amount of power with lies and manipulation. I did research for Virgo into cults and again into just real life, horrible, hierarchical governments and not even, my own government. George Bush was president when I wrote this book. And also research into real life trauma reactions and so on and so forth. I really feel like I'm, telling a true story.
Alors, je suis assez d'accord avec les autres, c'est-à-dire que j'ai l'impression de raconter des histoires vraies. C'est-à-dire que je fais des recherches sur des dirigeants de pays, des vrais. Et voir comment ils arrivent justement à obtenir tant de pouvoir à travers des mensonges et des manipulations. Je me suis aussi renseignée sur des sectes. Et donc en fait, j'essaye de voir vraiment l'horreur réelle et de mettre ça dans mes romans. J'ai fait des recherches sur des gouvernements, ma foi même le mien, le gouvernement américain. Quand j'ai écrit Little Blue, c'était Bush qui était président. Donc voilà, et j'essaye aussi d'étudier la réaction que les gens peuvent avoir à différents traumatismes. Donc pour moi, vraiment, j'essaye de raconter des histoires vraiment.
Yeah. Oui, moi c'est pareil, je crois que si j'écris, c'est parce que j'ai lu Labori, quoi, l'éloge de la fuite, quand on a envie de se barrer. Quoi. Je pense que déjà au départ, le conte de fées, c'est ça, il y a un roi tyrannique où les parents vont perdre leurs enfants dans la forêt et ils apprennent à vivre. Ils vont repartir sur d'autres bases beaucoup plus proches de ce qu'ils devraient vivre, de ce qu'on devrait vivre, c'est-à-dire garder une espèce de dame chevaleresque, c'est assez... Et il va traverser la forêt initiatique, la forêt des contes, mais la forêt de la vie, la forêt où il va rencontrer les hommes, etc. Et c'est assez étrange aussi, si vous remarquerez, que les héros deviennent rois à la fin, mais toujours par les femmes. Ils vont rencontrer la fille du roi, et c'est la femme, la nature, qui va les réapprendre à vivre. C'est la sorcière, c'est la fée. C'est la belle année autre pareil, mais c'est elle qui va les initier au dernier moment, qui va vraiment, même si elle apparaît comme une ogresse au départ, elle va être la bonne fée qui va les... Et c'est ça, je pense que c'est l'amour aussi, c'est Merlin qui se rend compte que le roi Arthur va droit dans le mur, tant qu'il est un roi utopique, chevaleresque, légendaire, ça va. Lorsqu'il va essayer d'imposer dans la réalité une manière de vivre, il va lui aussi fauter. Robin des Bois, on le quitte avant de... Il a remis Richard sur le trône, il n'a pas bien fait. Il aurait mieux fait de rester dans sa forêt. Le temps qu'il épouse Maria, bon, ça va, il reste dans la forêt. Mais heureusement, le Shane, l'homme des vallées perdues, s'en va une fois qu'il a ramené une forme d'équilibre, mais après, il s'en va. Et c'est un peu ça, je crois que le fantastique, le merveilleux, les contes, nous offrent une ouverture essentielle, mais sans arrêt, de retrouver cette espèce de paradis perdu, cet âge d'or, on n'y parvient pas. Et nous, on essaie à chaque fois de recommencer quelque part de notre coin à donner des espèces d'éclats, de parcelles, de fragments de cet âge d'or, de cette utopie. Ce qu'il y a de réjouissant, c'est que à chaque époque où justement ça merde, quoi, au siècle des Lumières, où justement c'est le siècle des Lumières, heureusement il y a Madame d'Aulnoy, encore des femmes, qui arrivent, qui dans leur boudoir vont comme des sorcières ramener la féerie, la Belle et la Bête, tout ça. Après on les oublie, réarrive à nouveau l'époque victorienne où là l'industrie et tout, et là il y a Barry, il y a Lewis Carroll qui se réveille, qui tombe amoureux d'une petite fille, et on repart à nouveau, et il y a Peter Pan qui naît, qui ramène encore une espérance, quelque chose dans un marasme épouvantable qu'on connaît aujourd'hui, avec notre Louis XVI aujourd'hui, mais les autres aussi. Ça ira. Il y a ça à nouveau, et ça part toujours du merveilleux. Il y a une révolte, c'est la flèche noire, part toujours de Sherwood, part toujours de Brocéliande, part toujours de cette forme de littérature qui est celle du merveilleux, du fantastique, même quand elle utilise l'horreur, la peur, comme aujourd'hui tous ces films de vampires, dont le premier, où on voit les zombies, la première chose qu'ils font, c'est aller se réfugier dans le supermarché. C'est effrayant, c'est affolant, mais c'est terriblement symbolique, quoi.
Mais d'ailleurs, il me semble, qu'on dit en ce moment, que la science-fiction, pas Robert, mais enfin, en tout cas, intéresse un petit peu moins les lecteurs, et que le fantastique, la fantaisie, le merveilleux sont en train de prendre le pas, et ça résonne avec notre société actuelle.
Ah,
en réalité, c'est un besoin, je pense.
Je crois que le merveilleux il est assez présent aujourd'hui, parce que par exemple, il y a des monstres, c'est le thème de la table ronde, là.
Non, il ne sait pas de quoi il parle.
C'est d'où viennent-elles créatures fantastiques et magiques.
Et parce qu'il y a une anecdote qui était tombée dans le Fortean Times que je connais bien, et ils auraient repéré encore un avatar du Yeti en Chine, il n'y a pas longtemps. Alors, il y a une expédition scientifique qui s'est montée, qui était financée par un lutteur qui est très célèbre là-bas, 2 mètres de haut, 100 kilos, parce qu'il veut affronter le Yeti.
Papa, oui, c'est pas mal.
Le merveilleux, moi, je vois le rêve.
Oui, magnifique.
Oui, en fait, c'est une sorte de réenchantement. Voilà,
c'est une interprétation, je pense. C'est une interprétation de l'univers. Tu fais passer des choses violentes au monde, belles au monde, mais tu les déguises finalement. C'est ouais, ça, c'est pas c'est un lame d'enfant en fait.
Et si vous avez quelque chose à ajouter?
Non,
just agreement. I mean, nothing new or brilliant.
Je suis d'accord, j'ai rien de particulièrement brillant à ajouter.
Bien, écoutez, je vois que l'heure tourne quand même très vite, donc je pense qu'on va peut-être passer aux questions, et vous m'excuserez si je m'éclipse plus ou moins discrètement pendant les questions, et je me permettrai de passer ça quatre fois parce que j'ai un petit conflit là d'horaire, et il faut que je parte un tout petit peu plus tôt.
Merci.
Est-ce qu'il y en a des questions? C'est toujours le grand moment de silence. Est-ce qu'il y a une question? D'ailleurs, s'il n'y a pas de problème, on n'est pas à l'école. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Francis, tu m'aides, fumier?
Et puis, il faudrait donc, peut-être allumer voilà. Les lumières parce voilà. Que là, les gens se réfugient.
On a dans la salle, avant qu'ils soient barrés, en fait, une pierre, un gars qui s'appelle Francis Bacon. Il faut le faire quand même. Hein. Et Francis Bacon, je ne sais pas s'il se tasse complètement dans son truc ou il s'est déjà barré. Et tu pourrais poser une question, tu pourrais aider un copain. Non. Ah oui, c'est barré. Il y a une. Bah, je vais en poser une quand même. Donc, à ce alors, non, ce qui m'intéresse déjà en tant qu'auteur dans mon petit coin, ce qui ne vient pas toujours, c'est comment ça vient. Tu vois, à partir de quoi, quand tu es enfant, ou à quel moment tu as brusquement cette envie d'écrire, et justement ça.
L'envie d'écrire ou l'envie d'écrire dans ce monde-là?
Les deux.
Moi, j'ai quand même l'impression que les gens qui écrivent du fantastique ou de la fantasy, c'est des gens qui sont hyper connectés à l'enfant qu'ils ont été. En fait, ils le sont toujours. Et je pense que c'est la seule chose. Par exemple, moi, quand j'étais petite, voilà, je vais raconter des trucs.
Oui.
C'est quand c'est
l'émotion. Donc, je m'endormais, je n'arrivais pas à m'endormir et il y avait un chevalet de l'autre côté de ma porte et il était tout le temps avec des vêtements dessus. Et dans les plis, je voyais des choses comme la braise dont tu parlais tout à l'heure. Je voyais des visages, des trucs. Et je m'en souviens. Et je pense que quand on écrit, c'est un peu ça en fait. C'est-à-dire que dans une jupe posée sur un balai, nous on voit un troll. Et on a envie du coup de et je pense qu'en fait tout le monde est comme ça. Moi je crois que tout le monde est comme ça. Donc, enfants, c'est comme quand on des nuages, on fait tous. Et quand on écrit, c'est qu'on n'a pas envie de perdre ça quelque part.
Oui, tu as dit aussi quelque chose tout à l'heure que j'ai viendré, parce que je dis aussi la même chose, c'est quand on me dit mais comment tu écris, etc., je dis mais je tricote. C'est vrai qu'il y a un côté tricot, tu tricotes tes phrases, et au fur et à mesure où ça vient, un point à l'endroit, un point à l'envers,
tu rates,
il y a une forme de raconter une histoire et de tricoter, on a vaguement un motif. Et puis, est-ce que tu fais comme ça? Comment ça s'est passé quand tu étais petite?
I daydreamed. I read and I daydreamed. I think that's, you know, the daydreaming. Daydreaming is discouraged and it's tragedy, I think. Kids should be encouraged to look out the window and daydream because that's where it started for me. And I would add to that I love what you said about, you know, seeing things in the clothes, and I feel I'm always writing. I can't turn off my writer mind, and so I'm getting it from, people always ask, where did you get the idea? First of all, I can never remember, and secondly, I get it from everything all the time.
Moi, quand j'étais enfant, je passais mon temps à lire et à rêvasser. Alors, rêvasser, c'est pas vraiment encouragé, on n'encourage pas les enfants à le faire, et c'est vraiment dommage, parce que pour moi, c'est là que tout a commencé, et les enfants devraient rêvasser, regarder par la fenêtre et juste rêvasser. Et j'ai adoré ce que vous avez dit tout à l'heure sur le fait de voir des visages dans les vêtements. Moi, j'ai l'impression que je suis toujours en mode écrivain, je suis toujours en train d'écrire, je peux jamais arrêter mon cerveau par rapport à ça, et quand on me demande « mais où est-ce que tu as eu cette idée-là » je suis incapable d'en souvenir parce que ça me vient de tout le temps.
Oui, je suis d'accord. Je suis plus dans la cuisine que dans le tricot. Je fais mijoter, je reprends. Je suis parti là-dedans. Je me souviens très bien quand j'avais 10-11 ans, quand j'ai fini le Seigneur des Anneaux, et sortant du livre Univers, je me suis même dit « je veux faire ça ». Vraiment, c'est comme j'imagine... quelqu'un dans un cheval, je veux m'occuper des chevaux, je veux faire de l'ébénisterie, je veux faire ça. Donc après, j'ai plongé dans le fantastique et j'ai entretenu la chose, quoi.
Moi, j'ai évité que ce soit par la cuisine parce que je commençais déjà un peu. Mais justement, il y a un film que je trouve assez extraordinaire, c'est La nuit du chasseur. J'en faisais allusion tout à l'heure. Et ça, c'est ça qui est assez extraordinaire. C'est cette image où les enfants se racontent des histoires d'un ogre. Qu'on voit, parce qu'il y a un feuillage qui projette sur le mur un personnage, donc ils imaginent ce personnage, ils le voient comme ça sur le mur, et lorsqu'il y a un mouvement de vent, ce personnage disparaît, c'est le propriétaire, quoi, et un jour le mouvement du vent cesse, et on voit réellement la silhouette du pasteur, qui est là, le croque-mitaine est réellement là, le chasseur est là. Et c'est vrai que là, brusquement, ça devient une réalité. Je trouve que ça, effectivement, c'est assez étonnant dans ce film et dans ce roman d'avoir découvert ça, cette idée de cet enfant. Et là, tu disais quelque chose de très bien là, sur le fait qu'on devrait... laisser l'imaginaire déborder chez les enfants. Bachelard, encore une fois, disait l'imaginaire, c'est la vie. Et hélas, nous, avec notre société, les profs nous empêchent de cet imaginaire. Quand tu dois faire une rédaction, que tu débordes un petit peu dans les marges et que tu as envie de faire de la littérature, on dit non, on demande de bien écrire en français, on ne demande pas. On demande d'être clair, mais surtout pas d'imaginaire. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire
Ça dépend des profs. Hein. Moi, j'étais toujours en sujet, je me tapais des bulles en permanence, mais j'avais eu la chance d'avoir un prof en première et terminale qui nous a fait travailler sur La Compagnie des Gaz de Gégé Arnaud, qui est un grand, un long roman fleuve, fantastique, VSF, merveilleux. Pendant 2 ans, on a bossé là-dessus. On était chez les Jésuites, en plus. C'était un peu, c'est un peu l'exception qui confirme la règle, mais... qu'est-ce qu'on peut faire, je ne sais pas, mais il y a d'autres... Je pense que les enfants continuent à se raconter des histoires quand même, quoi. Je vois les miens qui grandissent par le biais du jeu vidéo, parce qu'ils se racontent, quand je vois mon fils de 10 ans qui rêvasse dans la rue, qui manque de se faire écraser par une bagnole, mais il rêvasse, tant mieux. Voilà, ça continue, c'est bon.
Moi, je parle à l'ennui.
Ah oui, tout à fait.
Je pense que c'est l'ennui, en fait, qui sauve le monde.
Ouais.
Voilà. Et quand les enfants s'ennuient, c'est là qu'il y a du daydreaming, c'est là qu'il y a la rêvasserie.
T'avais la chanson de Planet qui dit « Les enfants s'ennuient le dimanche les enfants s'ennuient », et c'est là justement où c'est merveilleux, manque de bol aujourd'hui, clic, 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 ils sont sur leur tour. Les parents empêchent les enfants de rêver, tout de suite il faut les occuper, et surtout qu'ils rêvassent, qu'ils s'ennuient, c'est là où tout se passe. Tu ne penses pas?
Doing what I wanted to do, which was mostly reading. Also, I had the advantage of living really, really far away from school. I lived in the middle of the country, And so, first of all, there weren't many cars, so I wasn't going to get run over. I might get run over by a cow. but also, I spent a lot of time in the car going to school, sitting in the back seat, and I have lots of sisters, so they would just, you know, make noise, and I was at their daydreaming. I mean, I can't... My parents weren't sending me off to a million activities, and I just really was gone.
Alors, personnellement, je suis assez contente que mes parents n'aient pas souhaité à tout prix me garder, enfin, m'occuper à tout prix. Personnellement, ils me laissaient tranquille, ils lisaient et ça m'allait très bien. En plus, je vivais assez loin de l'école, alors il n'y avait pas beaucoup de voitures, donc je n'aurais pas pu me faire renverser par une voiture, à la limite par une vache, mais pas une voiture. Mais par contre, du coup, pour aller à l'école, je passais beaucoup de temps dans la voiture, à l'arrière. Alors, mes sœurs, elles discutaient, elles faisaient du bruit, mais moi, je regardais par la fenêtre et je rêvassais. Et mes parents m'ont pas fait faire des tonnes d'activités et j'en suis reconnaissante.
C'est extraordinaire parce que j'ai rien compris à ce qu'elle disait tout à l'heure en anglais parce que je suis à chier. Mais j'avais repéré comme vache. Je pense que ça fait là. Néanmoins, toutefois, cependant, il y a effectivement l'inspiration, et en même temps, ce que je voudrais savoir, c'est aussi c'est vos sources après, pour les auteurs qui ont aidé, comment après on puise, tu as l'inspiration, et puis après, comment tu tricotes, comment tu vas chercher des ingrédients pour ta bouffe. C'est-à-dire que le shaky, comment ça s'est passé?
L'inspiration pour un bouquin comme Magie secrète, c'est très historique, donc c'est beaucoup de recherche avant, mais toujours avec l'optique de s'amuser. Donc si je trouve un truc historique, je vais le détourner immédiatement. Mais en général, mon écriture, ça vient beaucoup d'ambiances que j'ai aimées en forêt, ou d'expériences personnelles, comme par exemple quand j'étais ado, j'étais à Reims, qui est une ville dans le nord-est de la France, on s'ennuyait beaucoup. Et là, c'était la seule chose à faire pour s'amuser.
C'était boire du champagne.
Oui, bon, pour tenter le diable et la mort, on montait sur la cathédrale de nuit. Il y avait des échafaudages qu'on pouvait grimper. Et on rentrait dans la cathédrale. Et une fois qu'on est dedans, il n'y a pas un bruit, on entend le vent à l'intérieur de l'édifice. Et alors ça, ce genre de choses, une fois qu'on vivait avec deux, trois copains et que vous vous racontez des histoires entre les deux tours à minuit, vous êtes foutus. Hein.
Alors, moi, je dirais que c'est les lectures, beaucoup. Hein, Romain, mon dieu vivant à moi, avant Tolkien à 10 ans, c'est Roald.
Ah oui.
Et quand on arrive au Roald, elle est pas... Ah, rien. On va pas faire vraiment, quoi. Tolkien, voilà, tout ce qui est cas. Moi, j'adore le cinéma d'animation, notamment l'anime japonaise. Et il y en a un univers qui est très éloigné du... autre qui est une richesse époustouflante, donc j'en regarde beaucoup. C'est plus une digestion qu'une inspiration, en fait, je dirais, pour rester sur le et puis après, moi, c'est les endroits, en fait, je pense. C'est, par exemple, je suis allée deux étés, enfin, on raconte beaucoup de vie, en fait, deux étés de suite en Hongrie, en Italie. Et j'ai visité notamment le château de Saint-François d'Assise. Et il y a un énorme rempart dans ce château pour aller à la tour de guet, qui en fait est creux. Et c'est un très large mur, mais on descend dedans.
C'est
et c'est tout petit. Et le tunnel est venu là. Voilà, dans le bien fait. Et il est né le jour où je suis venue aller là. Voilà. Donc il y a aussi les endroits, les paysages, le vécu, le voyage.
I agree that the travel, especially as an American, we have beautiful landscapes, but we don't have particularly impressive architecture. So travel to Europe in particular has definitely influenced my cities and my kingdoms. Growing up, I didn't read a lot of fantasy. It just wasn't available to me. I was limited by the library that we had, and it's a small library with a small selection. So I read a lot of classics, Jane Austen and Charles Dickens and things like that. I read Nancy Drew mysteries and things like that. And now I also don't read a lot of fantasy because it interferes. I don't know if you have this problem. I have to really limit the amount of fantasy
I read while I'm writing it, because I just start to feel like I'm, everything's the same and I'm plagiarized and nothing I'm doing is ever original. So I'm shockingly badly read in my own field. But I find that I learn how to write from every book, from good books and bad books.
Especially
bad books, you know. Although I also have to be careful not to read a really long, bad book because it starts to infect my writing style. So I try to read long, good books.
Effectivement, je suis assez d'accord avec l'idée du voyage. C'est vrai qu'aux États-Unis, on a de magnifiques paysages. Par contre, point de vue architecture, c'est pas tout à fait ça. Donc, je me suis inspirée des voyages en Europe. Ça a beaucoup influencé mes villes et mes royaumes. Étant jeune, je n'ai pas beaucoup lu de fantasy parce que, à vrai dire, j'étais limitée par la bibliothèque où j'allais, qui était assez petite et qui n'avait pas beaucoup de choix. Donc, j'ai surtout lu des classiques comme Jane Austen ou Charles Dickens. Et aujourd'hui, en fait, j'en lis pas beaucoup non plus, parce que sinon j'ai l'impression que ça interfère avec ce que je fais. Hein, je limite mes lectures, parce que sinon quand j'écris, après j'ai l'impression que c'est du plagiat, que tout ce que j'écris, il n'y a rien d'original, et que j'ai tout piqué à celui que je suis en train de lire. Mais par contre, on apprend à la fois en lisant des bons bouquins et des mauvais. Par contre, il faut éviter les mauvais qui sont trop longs, parce qu'au bout d'un moment, ça finit par influencer le style aussi, donc il vaut mieux lire des bons longs.
Mais je crois qu'on est arrivé au bout, hein, voilà. Donc, écoutez, amusez-vous bien. Quand la bonne journée, la parole vous protège.
Toi, t'es un psy, hein. You're a shrink. Ah, bah.